Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de puissance maximale à l'écoute de Star Trek pour les nuls, le podcast spécial Entrevue. Dans les entrevues, vous le savez, nous revenons sur la noobitude des intervenants de ce podcast. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Matou. Comment vas-tu, Matou ?
Très bien, bonjour à tout le monde et je suis ravi d'être là.
Nous aussi, que tu ravis d'avoir.
Et tu vas me frotter le nombril, donc ça fait toujours du bien. Tout le monde aime ça.
Exactement. Quant à moi, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. Star Trek pour les nuls. Alors, Mathieu. Pardon, évidemment, ça commence bien, m'as-tu vu? Alors, Matou, comment as-tu découvert Star Trek?
Ah, c'est une vaste question. Alors, je plaisantais tout à l'heure en te disant que tout le monde aime bien qu'on se fasse gratter le nombril et qu'on se raconte, mais je vais essayer de... Parce que la réponse est assez longue à une question courte. Donc, pour pas être pénible, redondant, j'aimerais la mettre plutôt sous la forme d'un cheminement de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rencontre avec Star Trek, il y a plusieurs rencontres. Quand on sait que c'est 731 épisodes, 13 longs métrages, des BD, des jeux et des romans, je pense qu'il y a matière à ce que chacun trouve là-dedans quelque chose qui l'accroche. Donc répondre à cette question, c'est savoir qu'est-ce qui, moi, m'a accroché là-dedans. Et à travers moi, j'aimerais voir ce qui peut accrocher des êtres humains dans Star Trek. Parce que tout est affaire de sensibilité, mais je pense que Star Trek nous propose quelque chose qui permet de plaire à bien des sensibilités différentes. Et ça, c'est assez rare dans l'audiovisuel, dans les séries. Et comme j'aime bien comprendre, j'ai essayé de m'interroger pour savoir qu'est-ce qui fait que Star Trek peut plaire à autant de personnes aussi différentes et encore une fois aux sensibilités différentes. Mais bon, d'abord, il faudrait que je me définisse un petit peu. Ça aiderait à ceux qui écoutent et qui se disent « qu'est-ce que c'est que cette réponse longue là ?»
On se croirait sur France Culture, bienvenue.
Voilà, essayons d'être moins pédant et surtout, le problème de France Culture, c'est que t'as beau écouter pendant 5 minutes, tu te demandes « mais qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement ?» Ou parfois, t'as envie de dire « mais... vous dites avec des mots très compliqués et de longues phrases, des choses extrêmement simples, c'est bon ? » Enfin bon, pas que l'intellectuel soit quelque chose à rejeter, parce que je me définis moi-même comme étant un intellectuel curieux. Ce que j'aime pas, c'est que le savoir est avant tout quelque chose qui, pour moi, est à partager, à expliquer, et non pas à utiliser comme une coquetterie pour essayer de bien se faire voir ou d'écraser les autres. Donc ça, si tu veux, on touche du doigt deux choses qui sont... dans la définition de ce que je suis, c'est que j'ai été élevé par un père qui a beaucoup de principes qui s'appliquent à lui-même, mais qui ne les a jamais imposés. C'est-à-dire que tu vois ce que c'est que quelqu'un qui a corpus intellectuel, des principes, qui a essayé de les mettre en application dans sa vie. Ça donne un exemple, mais qui n'est pas quelqu'un qui veut absolument qu'on reproduise ce que lui a trouvé comme étant sa manière d'être. Mais ça te donne forcément un rapport au savoir. Et, par contagion, une vision positive de l'humanité. J'insiste là-dessus, sur une vision positive de l'humanité, mais pas une vision angélique ou une vision naïve de l'humanité. J'insiste beaucoup là-dessus parce que, dans pas mal d'éléments dont j'ai pu discuter avec des gens sur Discovery, c'est un point, à mon avis, où les désaccords peuvent naître là-dedans. Et enfin, j'ai développé un lien assez fort avec les institutions. J'avais lu quelque chose, enfin une maxime que je trouve assez vraie, qui dit que les institutions restent alors que les hommes passent, et que c'est elles qui doivent avoir la mémoire, parce que lorsque les hommes se succèdent, eux gardent la mémoire de l'ensemble. Donc, une fois qu'on a posé tout ça, on voit un petit peu plus pourquoi est-ce que Star Trek a pu m'intéresser, Starfleet, l'utopie trekkienne.
Tout à fait.
Mais bon, c'est bien beau, mais si je reprends le cheminement, comme j'avais dit, au niveau de cheminement de vie, quand vous êtes né comme moi, entre la sortie du premier Star Wars au cinéma et avant la sortie du premier Star Trek au cinéma, donc vous avez été enfant dans les années 80, beaucoup des choses qui me définissent maintenant, oui.
Les Goonies, tout ça.
Ouais, c'est pas mon film préféré, même si je suis allé le voir en salle.
Pardon ? C'est pas ton film préféré ?
Non, c'est loin d'être mon film préféré. D'ailleurs, tu vois, j'avais même oublié que...
Je vais te retrouver et te casser la figure.
Tu vois, alors tu disais qu'on ne riait pas à tes blagues, tu vois, je suis con publiquement.
Merci beaucoup.
Vas-y. Quoi, on peut être intellectuel et bon public.
Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, reprends.
Donc, en plus, tu fais une petite digression sur les Goonies, je ne savais même pas que certains acteurs que j'ai vus ensuite avaient tourné dedans. Est-ce que tu le sais, toi ?
J'ai oublié Josh Brolin, le mec qui joue dans
Josh Brolin,
Le Seigneur des Anneaux.
Josh Brolin ne joue pas.
Josh Brolin, c'est le grand frère. C'est Mickey, je ne sais plus son nom. Ah, pétard. Qui joue Sam Ganji et qui joue aussi dans Stranger Things.
Dans Stranger Things, où ils ont. Voilà. Alors, on va laisser à ceux qui ont le nom de nous le crier ou l'écrire ensuite. Et on va passer à la suite parce que je n'ai pas envie de trop parler des Goonies. Non. Mais c'est-à-dire que quand tu es enfant, moi j'ai eu une enfance où une chaîne, la 5, qui était la chaîne de Berlusconi, qui était venue avec de l'argent et des paillettes. C'était l'une des premières télé privées, la première étant Canal+, mais c'était une télé privée à péage. C'est avant la privatisation de TF1 en 87. Et donc, c'est l'une des premières télé dites commerciales, avec maintenant on dirait un peu de bling-bling et tout. Mais elle achetait à tour de bras des séries américaines. Et quand tu es jeune à cet âge-là, tu mates énormément de ces séries américaines. Donc, les plus marquantes pour moi étaient, entre autres, je ne pourrais pas toutes les citer, mais on avait K2000, Supercopter et Star Trek. Je dis ça parce que on a des séries, et je pense que ça fera écho à beaucoup de personnes qui nous écoutent, des séries qu'on aime quand on est enfant et qu'on les revoit une fois adulte, ça peut piquer. Alors moi, j'ai pris le principe de me dire que si j'ai été sentimentalement attaché à ces séries, même si je suis conscient de leurs limites, ça a quand même été des séries qui m'ont fait jouer dans les cours de récré, qui ont stimulé mon imaginaire. Donc, je peux admettre toutes les limites qu'elles ont, mais je ne dirai jamais du mal d'elles. C'est ça, être sentimentalement attaché à quelque chose.
Oui, moi. Je pense que ma génération pensera dans ces cas-là à Charmed, SG1, ou même Buffy pour certains, pour ce genre de réflexion.
Sachant que les séries que tu viens de citer sont quand même bien au-dessus de K2000. Mais bon, quand tu es enfant, une voiture qui parle...
C'est génial. Le chevalier des temps modernes.
Oui. Tu vois, bon, donc, surtout avec David Hasselhoff, qui était quand même... Et on a vu plus tard qu'il viendra un personnage. Enfin bon, et donc, Star Trek était une manière qu'on... j'étais jeune, l'école primaire, ça me faisait voyager. Beaucoup d'éléments, du kitsch, du carton-pâte, tout ce qu'on peut trouver de nos jours de limité. Certains diront ringard, d'autres irregardable. Quand tu es enfant, tu ne les vois pas. En revanche, tu arrives à percevoir les rapports qu'il y a entre les personnages. Parce que les séries des années 60 avaient cet avantage, repris aussi par les séries dont je te parle, d'avoir des rapports assez compréhensibles par les enfants, assez tranchés. Quand il y avait des nuances, elles étaient assez bien définies. Donc, somme toute, ça a eu un effet sur mon imaginaire assez important. Et donc, plus tard, quand vous êtes attrapé à l'enfance par quelque chose, eh bien, toute votre vie, vous pouvez plutôt, on ne va pas être aussi absolu, vous pouvez en garder toute votre vie une certaine curiosité. Ça, c'est les années 80, donc j'ai vu toute la série originale quand j'étais jeune, et bien entendu, énormément de choses me sont passées au-dessus. Mais comme la 5 faisait bien les choses, elle décida aussi d'acheter les films, et donc de diffuser les films le soir. Donc on a eu de Star Trek 1 jusqu'à, je pense, Star Trek 3. Le 4 venait de sortir, ils n'ont pas eu la possibilité de l'acheter. Le 5, pareil, vu que ce sont des films qui sont entre aux alentours de 87. Quant au dernier avec l'équipage classique qui date de 91, Terre Inconnue, utile te dire que la Berlusconi a revendu sa chaîne, je crois, à Hachette dans les années 90, la politique éditoriale ayant changé. Ils n'ont rien à faire. Mais bon, tout ça pour dire que le film qui a vraiment marqué ma jeunesse fut La Colère de Khan, enregistré à l'époque sur VHS, ce qui permettait de le voir et de le revoir et de le re-revoir. Et un film que j'ai donc revu en étant, une fois passé la dizaine d'années, entre 10 et 12 ans, et qui m'a énormément marqué parce que, pour la première fois, tu vois un de tes héros d'enfance vieillir. Et c'est la thématique.
Exactement, donc là, c'est tout à fait...
Tu es dans l'adolescence, du moins le début de l'adolescence, tu commences à percevoir qu'il n'y a pas que les enfants et les adultes, qu'il y a des changements, tu commences à te projeter en tant qu'adulte, tu n'en es pas encore un, et tu vois un de tes héros d'enfance qui se pose la question de vieillir. Et donc tu comprends que être adulte, c'est aussi vieillir. Là aussi, c'est un attachement sentimental. Toujours quand tu regardes le monde des adultes, ou du moins, quand je suis encore un peu trop absolu, mais regarder le monde des adultes, c'est essayer de le comprendre quand on commence à y rentrer. C'est bien aussi de voir que il y a des choses à appréhender, dont la vieillesse. Pour ça que ce film a été assez marquant pour moi. De plus, avec la morale de cet épisode sur les besoins du plus grand nombre l'emporte sur les désirs d'un nombre, voire d'un seul, c'est aussi, derrière ça, une organisation de société qui commence à poindre. Et là encore, quand on est dans une adolescence, on peut avoir un peu trop tendance à se regarder le nombril, avoir certaines leçons qui vous obligent à lever les yeux et regarder plus loin, c'est pas inintéressant. Donc, ça a été, pour moi, je dirais, toi, des repères temporels. L'enfance, son imaginaire, le début de l'âge de l'adolescence. Et puis on arrive dans les années 90 qui sont une succession de moments, on va dire, de rendez-vous manqués. La série passe sur Canal Jimmy, j'ai pas Canal Jimmy. La nouvelle génération, pourtant, j'étais curieux. Ensuite, je vais en Angleterre, j'arrive à voir Génération, ça j'y reviendrai, mais je comprends rien au nouvel équipage. Moi, je voulais voir comment était le nouveau capitaine par rapport à Kirk. Parce que moi, en fait, je voulais revoir Kirk. Tu sais, quand tu as entre 16 et 18 ans, tu veux revoir le héros de ton enfance.
Mmh, tout à fait.
Et en plus, bah, tu vois même la fin du héros de ton enfance. Mais c'est qui le monsieur chauve à côté, là, qui se bat moins bien que lui?
Et qui n'a pas envie de se battre, en plus, parfois.
Et qui n'a pas envie de se battre. Mais c'est-à-dire, je suis passé totalement à côté du film. Moi, je n'étais venu le voir que pour les éléments de la série originale, parce que la nouvelle génération, je n'y connaissais rien. Donc, j'ai vu Génération, j'étais content, mais... C'est un rendez-vous manqué. Un ami qui avait Canal Jimmy, qui aimait Star Trek, m'a offert pour mon anniversaire, vers les 20 ans, premier contact. Et j'ai rien que pas compris toutes les références qu'il y avait dans le film. Et la morale des Borg a glissé sur moi. Et donc, j'ai trouvé le film à l'époque passable. Tu vois, je ne voyais pas ce que mon ami voulait absolument me montrer. Lui était un grand fan de la nouvelle génération, notamment de Data et tout. Et puis...
Hors contexte, c'est très compliqué de comprendre les films nouvelle génération. Si tu n'as pas vu au moins la moitié, ouais, de la série, il faut s'accrocher, quoi.
Ouais. Mais c'est, tu vois, pour te dire que dans mon cheminement, c'était des rendez-vous manqués. Pour ça que je peux mieux comprendre que des personnes qui... découvre, parce qu'on te dit toujours « Ah, toi, t'es fan de Star Trek, par quoi je commence ?» J'estime qu'il n'y a pas une réponse, mais il y a plusieurs réponses en fonction des sensibilités, de commencer par quoi, comment, etc. Parce que justement, moi-même, tu vois, j'ai fait les choses dans le désordre et c'est pas forcément... ça n'a pas été efficace. Et pourtant, tu vois, plus tard, je deviendrai un fan de cet univers. Et la dernière rendez-vous manqué, qui en est un sans en être un, c'est que je découvre la série Stargate SG-1, que j'accroche, j'ai accroché à la série. Et c'est plus tard que j'apprendrai à quel point Star Trek SG-1 est une série dérivée de Star Trek. Beaucoup des thèmes, des éléments qui sont dans Star Trek SG-1, on voit très bien que ils ont puisé leur inspiration dans Star Trek. Et moi, ne cherche pas à alimenter une guerre entre deux univers, parce que les auteurs de Stargate, que j'aime bien, qui ont d'ailleurs fait d'autres séries intéressantes par ailleurs, ont toujours réclamé cette inspiration. Et pourquoi, par un esprit clanique, s'opposer alors que il y a des liens, comme pour moi, de deux séries cousines, une troisième maintenant avec. Le tout, c'est qu'on puisse prendre du plaisir à les suivre.
Juste, excusez-moi, c'est juste que ça a coupé. L'autre cousine, c'était The Orville, c'est ça?
Orville, c'est ça,
Ok, il y a eu une coupure au moment où tu as dit le mot. Excuse-moi,
ouais.
reprends.
Et qu'elles aient réussi à, on va dire, à proposer des thèmes, des propos à différents publics et à leur donner envie de réfléchir. Plus
Alors.
pour Star Trek, moins pour SG1. Ça, c'est pour dire. C'est rendez-vous manqué parce qu'en fait, je suis allé voir le cousin au lieu de voir la principale, tu vois. Et je continue mon bonhomme de chemin. Et puis en 2006, W9 diffuse La Nouvelle Génération tous les soirs à 18h. Et c'est là où enfin je peux avoir accès à cette série que j'avais quelque part toujours envie de voir, mais on n'a pas arrêté de se croiser. Et j'adhère énormément. J'adhère vraiment énormément à cette série. Et elle correspond de manière assez amusante à mes débuts professionnels. C'est-à-dire qu'en même temps que je commence à apprendre sur le tas mon travail, et c'est pas simple, ben je suis cette série. Donc il y a un effet à la fois refuge, parce que ça me permet de penser à autre chose, mais aussi des thèmes qui, on va dire, en dehors même de la série, me font réfléchir. Et c'est à partir de là où je rattrape tout mon retard. Je me débrouille pour trouver les DVD Blu-ray des séries manquantes. Sachant que la dernière, type appréhension sur Enterprise, et c'est devenu une de mes séries préférées. La Nouvelle Génération est pour moi celle qui me correspond le mieux. Et ensuite, je mets de côté parce que c'est la série de l'enfance, mais la deuxième, c'est clairement Enterprise. On pourra
Ok.
développer après. On pourra en développer un peu, mais voilà. C'est-à-dire que sentimentalement, c'est l'enfance, le début de l'adolescence, un long moment où on n'arrête pas, tu sais, comme dans ces dramas où, tu sais, ils se
Oui,
cherchent, mais ils ne
oui.
se rencontrent pas, mais ils vont ailleurs voir quelqu'un pour ensuite, tu sais. À un moment de coïncidence se retrouver, bah c'est exactement sentimentalement ce qui correspond à mon attachement à Star Trek.
Donc, ton rattachement à Star Trek, c'est Retour vers le futur numéro 2. Avec
Un peu,
la
oui.
relation des parents. Ok.
Avec un petit élément, parce que c'est quand même important, c'est que je revois Génération après avoir vu tout TNG, et comme je dis, je suis en plein dans des débuts professionnels qui sont pas simples. Et j'ai dû revoir en boucle, enfin, le début de Génération dans lequel on revoit ce que c'est qu'une passation de relais, on voit ce que c'est que de commencer dans un métier sans forcément avoir l'expérience. Et ça faisait tellement écho à ce que je vivais, c'est-à-dire que tu vois des gens pour qui des choses très difficiles pour toi sont simples pour d'autres qui ont de l'expérience. Et toute cette thématique sur le vieillissement qui rappelait mes premiers questionnements de pré-ado-ado, de les voir mis en scène avec la question de la transmission, parce que toute génération est une question de transmission. Pour moi, clairement, ça m'a. C'est un film qui a. C'est le film Star Trek sur lequel j'ai le plus d'attachement. Je suis l'un des rares à adorer Génération parce que, pour plein de raisons, mais surtout celle-ci sentimentalement, le film a correspondu à un moment de ma vie. Et très souvent, quand on est attaché à un film de manière sentimentale, même si on en voit tous les défauts, encore une fois, c'est qu'il correspond à un moment de ma vie. Donc Star Trek a correspondu à mon enfance, dans laquelle j'aimais rêver, mon adolescence où j'ai pas arrêté d'avoir on va dire, des recherches, pas toujours fructueuse, et mes débuts professionnels. Voilà pourquoi je suis attaché à cette série de manière sentimentale. Donc, comme tu vois, c'est pas qu'une découverte,
Non.
c'est un couple.
C'est un cheminement de, oui, un cheminement de vie, un couple. Oui.
Ensuite, j'avais dit intellectuellement. Alors là, intellectuellement, c'est que quand je découvre la nouvelle génération, de voir que Starfleet est devenu quelque chose d'assez institué, de voir que Picard est quelqu'un qui a des principes qu'il doit mettre en application, que le savoir est valorisé et que on a une vision positive mais pas positive mais pas naïve de l'humanité. Là, par contre, je me sens vraiment, on va dire, Star Trek correspond au choix intellectuel que j'avais dû à faire. Pour vivre en société, il faut quand même qu'on se soit posé un minimum de questions. On peut très bien vivre sans essayer d'y répondre absolument, mais on vit avec les autres. Donc, si on vit avec les autres, il faut au moins une certaine vision de ce que c'est que vivre avec les autres, pour faire court. Et donc, dans la vision de ce qu'est la société de Star Trek, c'est exactement la société dans laquelle je voudrais vivre. Et c'est celle en laquelle je crois. Mmh. Plus le fait que, comme je dis, avec un père qui a des principes, qui avait un rapport au savoir, d'une manière très longue, très lointaine, Picard correspond à l'image paternelle que j'ai eue. Ce qui fait que mon identification en tous les personnages de tout Star Trek, ben moi c'est Riker. Un, parce qu'il a la même, on va dire, la même manière ironique d'appréhender bien des situations. Et deux, qu'il a cette manière de se poser sous une personne alors qu'il pourrait s'en émanciper, pour la bonne et simple raison que, avant de partir, il veut être sûr d'avoir fini d'apprendre tout ce qu'il a à apprendre.
Et trois, oui. Pour la manière de s'asseoir sur une chaise. Tout à fait.
Ça non, parce que je suis
orthodoxe.
Mais ça va avec lui. Moi, je sais pas si c'est comme ça, mais il y a un petit peu de ça. Tu vois, donc, tu imagines bien que identifié à Riker, dans bien des choses, dans bien des réactions, ben, tu te trouves intellectuellement proche d'un personnage dans sa manière d'être, d'appréhender les plus dans un univers qui te plaît. Ben, c'est sûr. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas adhéré à Discovery. C'est que tout ce qui m'a fait venir à Star Trek, et encore une fois, je comprends très bien que cet attachement et ma sensibilité ne soient pas universels et qu'il y en ait d'autres qui soient attachés à d'autres choses, mais je n'ai rien retrouvé de tout ça dans Discovery. Et quand on gratte, je trouve ça assez fort de la part des auteurs d'avoir réussi à garder cette vision positive, d'avoir bien compris ce que sont des institutions, de l'avoir fait vivre pendant tout l'ère de production TNG, Deep Space Nine, Voyager et Enterprise. Même si, par exemple, c'est un ami à qui j'ai fait découvrir la nouvelle génération qui en est à son deuxième run et qui m'a dit « Non mais quand même, le problème de la nouvelle génération, c'est que l'équipage, il est super, mais dès qu'il y a un officier qui vient d'ailleurs, c'est toujours un connard, c'est toujours un incapable, c'est toujours quelqu'un qui vient mettre le bazar. » Et c'est l'une des limites, en effet, de...
C'est une limite,
c'est
ouais.
Que... ça, c'est la limite, c'est que si c'est une institution, on ne doit avoir qu'elle forme des gens, Picard n'est pas une exception. C'est... Bon, à chaque fois que Starfleet doit trancher, elle tranche toujours vers Picard. C'est-à-dire que c'est lui qui va plus incarner les principes de Starfleet. Mais justement, je trouve qu'Enterprise, comme je te disais, c'est mon attachement vient de là, Enterprise n'a pas ses défauts. Parce qu'ils ont réussi à créer avec l'amiral Forrest un vrai personnage positif qui est de rôle de mentor de Archer, capable de le remettre parfois sur les réalités ou sur des principes. Archer étant plus enfantin dans le sens...
Et il est candide.
Exactement. Mmh. Exactement. Et je trouve que ce personnage d'amiral dans Enterprise est vraiment ce qui manquait à la nouvelle génération. Pas que après, bon, Voyager, on est loin de l'institution. C'est intéressant de voir aussi ce que ça donne loin de l'institution et comment, bah, grosso modo, ils ont quand même conservé pas mal de choses. Space Nine, on approfondit cette institution, même si je suis moins fan de la dernière saison, de certains simplismes qui commencent à apparaître. Mais bon. Donc, tu vois, de l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, puis adulte, j'ai toujours la même foi dans l'humanité, même si je ne suis pas naïf, je sais très bien beaucoup de choses, sauf que j'estime tout simplement que l'humanité, est-ce qu'on en fait ? Si on décide qu'elle est négative et qu'il faut toujours contraindre les personnes, que de toute façon, la situation est telle qu'elle est et qu'on ne pourra pas la changer, qu'il faut l'accepter, ben c'est sûr qu'on va devant une société qui ne vit pas forcément bien et surtout qui ne vit pas mieux de génération en génération. Si on se fixe c'est la phrase de Picard dans Premier Contact, quand il dit que l'humanité a décidé de s'élever le jour où elle a décidé d'éradiquer la pauvreté et de commencer à vouloir plus faire dans le développement de chacun plutôt que dans la poursuite égoïste de ses propres intérêts. Toujours pareil, l'humanité n'est qu'un rapport de force. Le tout, c'est de savoir vers quoi on veut tendre. Est-ce qu'on veut tendre vers une minorité qui vivra bien sur le dos de tout le monde, ou bien est-ce qu'on veut que tout le monde vive bien ? J'en donnerai juste un exemple. Il faut savoir que je passe les conditions de production, mais on produit assez de nourriture pour nourrir toute l'humanité. Ça veut donc dire que de nos jours, s'il y a des famines, c'est pas une fatalité, c'est donc une question de comment l'humain s'est organisé. C'est plutôt positif de savoir qu'on peut nourrir tout le monde. Maintenant, c'est de se battre, entre guillemets, pour arriver à ce que tout le monde mange à sa faim. Donc, je ne suis pas dupe de ce que ça implique, je ne suis pas dupe du fait qu'on ne peut pas arriver à changer l'ensemble des personnes vivant dans le monde. Je dis juste que construire une société, c'est se fixer des objectifs et tenter de les atteindre et de se penser en termes de progrès. Voilà. Donc, mon attachement à Star Trek intellectuel, il vient de là. Je vois ce que on peut faire. Sachant que là encore, moi, j'ai vécu les années 90, 2000 et 2010 où j'ai mieux vécu mon enfance que mon père ne l'a vécu. Est-ce que ça sera la même chose pour les générations futures ? On ne sait pas. C'est un changement. J'ai vu beaucoup de choses où on m'expliquait que l'homme, la nature humaine, etc., etc. J'ai vu ces mêmes discours changer au fil du temps. Bref, tout ça pour dire que plus j'ai vu d'univers, plus j'ai compris que ce que proposait Star Trek était une utopie, certes, mais qu'elle était loin d'être inatteignable à condition que l'on, encore une fois, qu'on y croit. Et c'est l'un des rôles de la c'est aussi de montrer des fenêtres sur l'univers en disant voilà ce qui se passe, voilà ce vers quoi on pourrait tendre si on y croit. Discovery, on n'y croit pas. On n'a pas envie d'y croire parce que cette société ne donne pas envie d'y vivre. Voilà l'un des éléments pour la dernière série Discovery, parce que j'en ai pas parlé jusqu'à présent, qui est un hiatus entre moi et elle, du fait de cet attachement intellectuel à ce qu'elle m'a toujours proposé. Je sais pas si tu as des questions.
Non, c'est très très bien. Je t'en prie, continue de parler autant que tu veux, il n'y a pas de souci. Tu es en train de zapper toutes mes questions, c'est très très bien.
Non mais ça c'est que, pour le dire, c'est que j'ai demandé à ta femme, tu t'en es pas là, elle m'a tout envoyé. Donc.
Je vais lui dire que c'est une sale traîtresse.
Voilà. Non mais si tu savais vraiment jusqu'à ce que... Pardon, ma femme, bref.
Je l'ai pas vu arriver, ça.
Donc, et le dernier attachement, tu vois, c'est oui. À quel moment j'ai passé de noob. Alors, j'ai jamais été noob parce que, si tu veux, j'ai traîné dans des milieux un peu trop politiques pour être, si tu veux, dans ces éléments geeks. J'ai grandi avec toute cette pop culture qui est reprise par les geeks. Je connais assez bien. Je suis allé dans des salons comme le TGS. J'ai observé. J'ai vu parce que j'étais, comme je dis, curieux d'essayer de comprendre, on va dire, qu'étaient ces geeks-là, enfin ces geeks-là, je veux dire, c'était le grand moment, fin des années 2000, dans lequel on parlait des geeks, c'était mis en avant et tout. Mais cependant, J'aurais jamais pu ni être un noob, ni être un geek. Je ne joue pas aux jeux vidéo, par exemple. Tu vois, je...
Après, là, quand j'utilise le mot noob, c'est vraiment pour la caricature du non-connaisseur, de la personne qui découvre nul, quoi.
Ouais. Mais tu vois, par exemple, le terme noob, comme le terme geek et plein d'autres termes qui sont là-dessus, c'est un terme que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en traînant dans ce milieu. C'est-à-dire que dans ce milieu, il y a des mondes, des codes, des choses qui sont...
Élitistes.
Je dirais pas élitistes, mais il faut y aller pour le voir. Tu vois, de la même manière qu'en politique, dans le milieu dans lequel j'ai été, il y a aussi les mêmes choses, tu vois. Mais pour ça que je te dis que dans le côté noob, c'est un terme qui me, comme tout ce qui est de la définition de ce qui peut être le fan de Star Trek, assez, tu sais, caricatural, tel qu'on a pu en avoir tout plein, ça me correspond peu. Voilà. Donc, là où j'ai commencé à devenir un peu plus connaisseur, c'est que le forum sur lequel je suis modérateur, Ultime Frontière, ouais, je fais un peu de pub quand même.
C'est tout ton droit.
Voilà. Mais
allez plutôt sur la communauté francophone Star Trek. C'est là que je suis modérateur.
Ah, t'es devenu modérateur, je sais pas que t'es devenu modérateur.
Eh oui, mon ami, eh oui.
Ah bah c'est bien. Hein.
C'est la rencontre deux grands blocs.
Ouais. Non, mais si tu veux, on a un des modérateurs actuels sur Ultime Frontière qui a été administrateur. Là encore, les querelles de chapelle, moi j'ai connu ça en politique. C'est très facile, tu sais, dans les groupes humains, d'avoir vouloir un clan, de vouloir une chapelle, et on va dire de vouloir montrer en quoi on est meilleur, différent des autres, et de faire des querelles qui, quand on cherche un petit peu, n'ont pas tellement de fondement. Pour ça que unification, dont l'origine était d'unifier de l'ensemble, fan de Star Trek, qui est devenu autre chose ensuite. Unification actuellement, la communauté francophone de Star Trek, Ultime Frontière, plein d'autres endroits. Pour moi, c'est des endroits où, si vous êtes fan de Star Trek, allez-y, lisez, jetez-vous, parce que moi, c'est comme ça que j'ai réussi à devenir un peu plus connaisseur. Quand j'ai commencé à écrire et quand j'ai commencé à échanger avec d'autres. Et comme on est assez peu nombreux en tant que fan de Star Trek. La faute pour moi au fait que mes rendez-vous manqués des années 90 l'ont été aussi avec un bon nombre de personnes. Ça fait que c'est en discutant, en confrontant nos sensibilités, que l'on arrive à mieux comprendre ce qu'il y a dans Star Trek. Et comme je te l'ai dit, dans Star Trek, il y a quand même énormément de choses différentes. Il y en a que... Moi, j'ai des amis, tout le truc sur les institutions et la vision positive, ça leur passe à l'as. En revanche, l'atmosphère d'un SF, le fait d'avoir des vaisseaux spatiaux, de vivre, tout ça, enfin, ça leur plaît. Moi, j'ai des copains qui ont vu tout, la nouvelle génération, qui préfèrent, on va dire, les personnages et l'atmosphère de films de vaisseaux, enfin de séries de vaisseaux. Je parle de séries, on est la passerelle, les quartiers, enfin tu vois, à peu près tout ça, la planète. Mm-hmm. Ça leur plaît beaucoup plus que tout ce qui est, comme je t'ai dit, l'institution, la vision positive et tout ça. Mais voilà, c'est la force de Star Trek, oui, vas-y.
Exactement, c'est la force de Star Trek, mais comme je le disais dans l'entrevue avec Dragor, je pense que c'est le genre de personnes qui doivent vraiment s'ennuyer devant un épisode comme Darmok, où en fait on a deux personnes qui s'assoient autour d'un feu de camp et qui discutent pendant 45 minutes. Mmh. Mais bon.
C'est largement possible. Je suis bien d'accord avec toi. C'est l'un des épisodes de la nouvelle génération qui est le plus coté, c'est Lumière intérieure, Inner Light, qui raconte comment, en fait, en quelques instants, il vit toute une vie qui est un héritage, donc une transmission. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Et pourtant, c'est pas, tu vois, c'est un qui n'est pas sur un vaisseau, mais qui amène à se poser des questions sur, on va dire, sur le devenir d'une société. Sur la transmission, sur ce qu'il en reste, tu vois. Symboliquement, le fait qu'il sache toujours jouer de l'instrument, ça veut dire que toute trace n'est pas totalement perdue, continue à vivre malgré la disparition, qui est aussi une allégorie du deuil. C'est-à-dire que les gens auxquels on tient, qui sont décédés, continuent à vivre avec toi. Tu vois, c'est... Bref, là-dessus, Star Trek a la volonté de questionner ce qui fait notre humanité, ce qui fait notre société, d'avoir des questionnements moraux où on n'apporte pas une réponse simple, et le tout dans un âge avec une forme distrayante, parfois un peu kitsch, ça dépend des séries. Mais si tu veux, c'est un millefeuille. Tu trouveras toujours des feuilles qui vont te plaire. Et discuter avec d'autres, ça te permet de voir toutes les feuilles. Après, il y en a qui aiment. Je leur demande pas d'aimer Star Trek parce que, comme moi, ils cherchent à appréhender les millefeuilles. Mais c'est le truc avec Discovery. Et je vais arrêter là parce qu'on va croire que je veux toujours taper dessus. Mais Discovery, j'ai pas retrouvé ça.
Je pense.
C'est-à-dire qu'il y a des feuilles qui peuvent plaire et qui sont les mêmes que dans d'autres, même voire mieux faites. Et je suis capable de le reconnaître. Mais moi, il me manque une substance, il me manque quelque chose. Mais comme je dis souvent, j'engage tout le monde à voir quand même Discovery. Je veux dire, elle fait partie du canon, elle est dans l'ensemble. De la même manière que je ne vais pas me taire pour dire ce que j'en pense, je ne vais pas dire à des gens, ne la regardez pas. Parce que si vous aimez Star Trek, il faut aussi regarder Discovery, la dernière proposition. C'est ainsi. Encore une fois, tu sais, quand tu as un tout, un univers, je prends tout, les qualités, les défauts, les côtés qui te plaisent moins et les côtés qui te plaisent le plus, et je trie pas. Parce que quand tu commences à trier, à mon avis, tu perds la vision d'ensemble d'un univers.
Et est-ce que tu t'intéresses également à tout ce qui va être livre, comic book, alors, les articles vraiment canon, comme le film?
Alors, je vais y revenir, mais tu vois, donc, à travers la discussion que j'ai pu avoir, là, par exemple, se rencontrer sur un forum, tu rencontres des gens. Et c'est pour ça que j'ai un attachement, parce que Star Trek m'a permis de rencontrer des personnes que j'apprécie beaucoup, tu vois, qui... Ça a été aussi l'occasion pour moi, avec des amis que j'avais, que je connaissais par ailleurs, tu vois, de leur dire « Tiens, moi j'aime bien ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et mes meilleurs amis a aimé. C'est-à-dire que tu approfondis tes liens d'amitié avec certains. Tu découvres d'autres personnes qui ont cette même passion et tu te lis d'amitié. Parce que la culture, c'est un terreau commun qui fait que deux personnes qui ne se connaissent pas, on ne se connaissait pas avant, bien arrivent à discuter ensemble. On arrive à créer un premier lien, une première connexion qui va nous permettre d'aller plus loin. C'est un peu comme si tu étais dans un ascenseur. Tu sais, ces moments, entre guillemets, gênants, tu es dans un ascenseur. Bah, avec la différence, c'est que moi, contrairement à toi, j'évite de péter dans l'ascenseur.
Voilà, tu lis dans mon esprit. Je suis vraiment nul.
Donc, non, plus sérieusement, tu sais, quand tu es dans... Tu regardes la personne, tu souris. Mais si tu savais que, par exemple, tu te prends l'ascenseur avec quelqu'un, je veux dire une bêtise, tu vois, qui porte un t-shirt avec un truc de Star Trek ou qui a un élément, tu vois, dire n'importe quoi, un bracelet ou autre, et que tu vas spontanément commencer à lui dire ah, j'aime bien machin, ça me rappelle. Ah, vous êtes fan, vous connaissez. Et de suite, le temps dans l'ascenseur sera un moment, tu vois, beaucoup moins gênant et dans lequel il y aura un échange. Tu revois la personne. Tu ne la revois pas, la question n'est pas là. Mais cette connexion humaine, c'est la culture qui nous le donne. De la même manière que quand tu lis, tu vois quelqu'un en train de lire un livre que tu as lu, tu spontanément, tu as envie de lui dire « Ah, j'ai adoré ce livre, j'espère qu'il vous plaira aussi. » Ça engage une conversation et tout. La culture, c'est ce terreau commun qui fait que des inconnus peuvent discuter ensemble sans se connaître.
C'est ce qui m'arrive presque tous les jours dans le cadre de mon travail. Je suis vendeur et je vois tous les jours des gens qui ont un signe distinctif qui fait que j'ai envie de leur parler spontanément. Mais voilà. Je vois tout à fait où tu veux en venir.
Voilà. Et donc, il y a cet attachement série. Et comme pour moi, tout ce qui est entre guillemets dans Star Trek, du moment que c'est bien fait, ça peut m'intéresser. Après, c'est une question de temps. J'ai lu quelques BD. Par exemple, quand je suis allé à Londres, je suis allé dans une célèbre boutique. Il y a énormément de comics et tout. Donc, j'ai acheté quelques petits éléments. Il y en a un qui m'a fait rire, que j'ai pris. C'est un crossover entre Doctor Who et Star Trek du temps de Picard. Donc, je l'ai acheté. Il est fait, je crois, de mémoire en aquarelle. C'est un truc mais totalement annexe, mais l'histoire m'amuse. Deux univers qui se rencontrent, deux univers dont je suis fan. Voilà. Donc, j'ai pas une grande connaissance des BD, tu vois, des jeux vidéo, des romans. Je sais que Peter David, qui est un auteur de comics que j'aime beaucoup, a écrit des romans, notamment sur, je me rappelle plus le nom du vaisseau de Riker.
C'est le Troy. Titan. Ah ben non, c'est pas le Titan.
Comment? Je crois que c'est le Titan.
Non, le Titan, c'est là où ils vivent. En fait, c'est sur Titan, aux alentours de Saturne.
Pour te dire, c'est juste que tu vois que j'avais vu ça quand j'étais allé là-bas. Manque de temps. Mais du moment que dire, c'est intéressant. Moi, j'hésite pas à le lire, à trouver des trucs qui peuvent me plaire et tout. Encore une fois, pas de, on va dire, de choses dans lesquelles on pourrait être sectaire. Il n'y a que les films, il n'y a que les séries, les films, le reste, c'est secondaire et tout. Voilà. Après, encore une fois, une question de temps. J'ai déjà pas mal de lectures, tu vois, par ailleurs. Ensuite, je suis pas un connaisseur, mais je pense pas qu'ils aient été traduits en français. Tu vois, il y a plusieurs éléments qui font que, bon, il y a des choses un peu moins accessibles. Mais si j'ai une heure à tuer, que tu, on va dire, tu es dans une salle d'attente qui a des BD Star Trek que je connais pas, je vais m'empresser de les lire.
D'accord. Voilà. Oui, c'est tout à fait normal.
Donc, je reprends un petit peu ce qu'on avait dit, tu vois. Moi, après, le seul lien que j'ai avec la communauté, c'est ce lien fraternel, étant modérateur sur un site. Et tu vois, en ayant des liens avec d'autres, je ne fais pas de convention. Je n'ai pas cette âme, tu vois, du fan qui se costume, qui va voir ses acteurs, avoir des photos avec. On va dire, ce n'est pas quelque chose qui m'est, on va dire, qui m'est familier ou qui est dans ma nature, dans ma personnalité. J'ai vu beaucoup de personnes le faire, je n'ai rien contre. Je dis, je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais voilà. Et je suis aussi investi dans d'autres structures, ce qui fait que je m'investis peu dans des structures qui sont des structures, tu vois, d'univers imaginaire. Si j'avais deux ou trois vies, ouais, ça m'intéresserait bien d'essayer de rentrer dans ce genre de structure, les aider à les faire vivre et tout. Le temps, les journées n'ont que 24 heures, tu sais bien ce que c'en est. Hein. C'est et encore, là tu sais, moi j'ai des amis qui m'ont dit, avant, j'avais un enfant et... maintenant, j'en ai deux. Et je me disais qu'avant, j'avais vraiment du temps.
Ouais, je te répondrai l'année prochaine, dans 6 mois. Je voudrais quand même juste rebondir sur ce que tu viens de nous raconter, parce que...
L'ascenseur ?
Non. Sur les communautés et ta participation à ces communautés, qu'est-ce qui, en fait, t'a poussé à venir t'inscrire, notamment sur Ultime Frontière ? Peut-être que tu t'es inscrit sur d'autres forums. Qu'est-ce qui t'a donné ce besoin de venir contacter les autres communautés ? Tu aurais pu rester avec tes amis personnels.
C'est plutôt quelque chose qu'on subit plutôt que quelque chose qu'on recherche. Même si quand on se fait un petit plaisir en solitaire, l'avantage c'est que on sait ce qu'on aura et on n'aura personne pour te le gâcher. Sur cette allégorie-là, que tout le monde aura compris, hein, ce qui m'a poussé sur Ultime Frontière, c'est que je voyais une discussion et j'ai envie d'y participer. C'est, encore une fois, c'est la tendance, tu sais, ma tension intellectuelle qui voulait, vu que sur d'autres endroits, je participais sur des discussions intellectuelles. Mais quand je dis intellectuel, c'est juste une manière de réfléchir sur quelque chose. J'étais par exemple sur des forums de foot, tu vois, c'est comment aborder les questions liées à la baballe, tu vois, qu'on tape avec le pied, autre chose que ce qui nous était proposé sur l'ensemble. Donc, si tu fais ça sur le foot, pourquoi est-ce que tu vas pas intervenir sur Star Trek ?
Oui, d'autant plus. C'est vraiment une question, vraiment simple curiosité. Il y a du monde qui est intéressé de la même manière que toi par le foot, sur les forums du moins ? Parce que bon, on se moquait de France Culture tout à l'heure, mais je sais que très souvent ils en parlent et ils ont une très bonne, enfin une analyse très intéressante de tout ça. Mais est-ce que sur ce genre de communauté, tu as eu des réponses, des répondants ?
Oui, tu as les cahiers du foot, c'est le plus connu. Tu as SoFoot, qui n'est pas exactement un cahier du foot, mais qui en est dérivé. Il faut savoir que moi je définis ma génération. Là, celle dont je t'ai parlé là, enfant des années 80, on fait notre adolescence, on devient adulte dans les années 90. On est, j'appelle ça des enfants de la dérision. Pour situer, celui qui parle de la dérision, c'est Éric Zemmour, qui explique que dans les années 80-90 est monté au créneau. Notamment par ce qu'était Canal Plus à l'époque, un esprit de dérision qui a sapé l'ensemble des structures morales de la société et qui a donc préparé la suite, celle où, on va dire, on a pu voir une starification de personnes qui n'avaient ni intelligence ni talent pour l'être. Voilà, je ne participe pas du tout à cette analyse, mais c'est assez vrai que j'ai été baigné dans cette période-là dans cet esprit de dérision, qui est en fait de se moquer des places fortes, des dominations intellectuelles, pour bien voir si elles méritent la place qu'on leur accorde. D'où, ça ne me gêne pas, alors que j'adore Star Trek, de me moquer de Star Trek, par exemple, avec le meilleur ami dont je te parle, on se marre à chaque fois que Patrick Stewart s'assoit et tire sur son uniforme.
La manœuvre Picard.
La manœuvre Picard.
Je ne comprends pas. Byron aussi trouve ça ridicule, mais je trouve ça génial. Je trouve que c'est un détail qui rajoute tellement de réalisme. C'est comme lorsqu'on regarde la série Scrubs, quand on voit le Dr. Cox se frotter le bout du nez. C'est un tic qui donne de la crédibilité au personnage. J'adore ça. Moi, ça ne me fait pas du tout rire.
Mais nous, ça nous fait marrer parce qu'on voit que... Mais putain, mais... Alors déjà, dans la... vu que c'était en pyjama intégral, donc ils ne faisaient pas. Puis après, c'était pas confortable, donc ils ont changé. Et comme il dit, ils ne peuvent pas prévoir, pas faire des uniformes. De la même manière que le même pote, qui a la même génération que moi, me dit que, tu sais, dans Enterprise, ils ont des uniformes de pompistes. T'as l'impression que... il va te dire, c'est pompiste des années 50, 60, il te demande s'il faut faire le plein de ton vaisseau spatial.
Je vous en mets combien?
Je vous en mets combien? Tu vois, c'est-à-dire on a la possibilité d'arriver à se moquer, et les cahiers du foot, avec pas mal de choses sur les lucarnes ou autres, le font très bien. Et j'en ai développé que tu peux aimer une chose et t'en moquer. Moi, ce que j'ai réussi de l'âge où j'en suis, c'est se moquer d'une chose et réfléchir sur une chose sont les deux manières de vraiment bien l'appréhender. Voilà. Encore une fois, comme je dis, le côté piquant de Riker, c'est, j'ai toujours trouvé, en plus, qui vient de Jonathan Frakes. Tu vois, il y a cet épisode où Picard est obligé de prendre des vacances, et tu as Riker qui lui donne un totem, qui est le totem pour dire que t'es vraiment très chaud et que tu veux avoir beaucoup de relations avec des femmes, et que sans le lui dire, et que Picard est confronté à l'intérêt de jeunes femmes qui, voyant qu'il exhibe ça, croit qu'il veut avoir ce genre de relation. C'est exactement le genre de blague que j'aurais faite.
D'accord.
Voilà. Donc oui, tu peux arriver à en faire, et je pense que traiter d'une question avec sérieux sans se prendre au sérieux, c'est nécessaire.
Ah, voilà que tu viens de citer... Bon, la phrase m'est venue il y a quelques secondes en tête, mais tu viens de citer la signature d'un membre émérite de la communauté francophone de Star Trek, mon patron, en fait, hein, l'administrateur de la communauté. Faire les choses au sérieux, sérieusement, sans se prendre au sérieux.
Ouais, mais il a dû me l'appliquer. Il va falloir que j'aille voir Minos, hein, pour lui dire que...
On va te choper, tu vas voir. Ben écoute, on approche quand même de l'heure d'enregistrement, donc je t'invite, si tu veux, à conclure sur ce que tu es, sur ta présentation envers les auditeurs et les auditrices. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ?
Oh, pas tellement. Après, comme je te dis, trop parler de soi, pas intéressant. Je préfère parler de Star Trek. Et d'une manière, d'essayer de défendre, parce que j'ai cette impression qu'on le sent moins, que c'est quelque chose qui est un peu mis de côté. J'ai eu avec des gens sur Ultime Frontière des désaccords là-dessus. L'attachement à des personnages, parce que les personnages de la nouvelle génération sont bien faits, d'Enterprise aussi, un peu moins sur Voyager, et beaucoup sur DS9, et bien entendu sur la trilogie originale et ses films, on peut s'attacher au personnage. Je le comprends très bien. Cependant, Star Trek est un monde construit autour de la vision de son auteur d'origine, Gene Roddenberry, qui voulait dire à l'humanité, qui voulait dire à ses concitoyens, enfin à ses contemporains. Et si on mettait de côté ce qui est nos défauts et qu'on bâtissait ensemble sur nos qualités. Et je suis très attaché à ça, et j'invite simplement à, s'il y a une chose de cet entretien, c'est de ne pas le perdre de vue quand vous regardez Star Trek. Vous n'êtes pas obligé d'être attaché à ça, je ne vous l'impose pas, je ne vous dis pas que si vous ne le ressentez pas, vous passez à côté, vous n'avez pas compris Star Trek. Je vous dis simplement que, pour moi, c'est la chose qui fait que Star Trek a duré et que Star Trek est différent des autres œuvres cinématographiques et télévisuelles. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Matou, pour toutes ces indications. Je pense que tout ceci permettra à nos auditeurs et auditrices de cerner un petit peu ta personnalité. Très chers auditeurs et auditrices, avant d'attaquer la fin de cette émission, sachez que j'ai retrouvé le nom de l'acteur qui joue Mickey dans Les Goonies. Il s'agit de Sean Astin. Pas Sean Austin, Sean Astin. Ou alors il y avait une faute d'orthographe sur le site. Bref, n'hésitez pas à revenir sur ce qui a été dit durant cette émission. Pour cela, vous avez à votre disposition le hashtag NoobTrek et le hashtag NulTrek sur Twitter ou les commentaires Facebook, YouTube, etc., etc. D'ici la prochaine émission, je pense que Matou va se joindre à moi pour vous souhaiter une vie longue et remplie de prospérité.
Ah, absolument. Et puis, pendant que tu allais faire le montage, je vais aller voir ta femme.
Oui, bah, merci.
Il faut bien s'occuper d'elle pendant que toi, tu es sur ton ordinateur.
Oui, voilà, merci. Je vais mettre l'alarme sur la porte d'entrée de chez moi. J'ai un chien très méchant, attention. À très bientôt.
Non, mais je sais déjà tout ça.
À très bientôt, tout le monde. Bonne soirée, ou bonne journée, ou bonne nuit, ou bon après-midi, ou bon repas, suivant ce que vous faites. Et oui, parce que c'est important.
Ou bon plaisir solitaire.
On y retourne toujours. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde.
Bien entendu. One small step for man, one giant leap for mankind.
Star Trek pour les nuls.